Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice.
Opposer justice et police comme le font certains en permanence, c'est extraordinairement grave pour notre pacte républicain.
Je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Il y a la loi, il y a des amendes, mais pas la peine de mort.
Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe.
Moi, pour moi, c'est le genre de cas où, fou ou pas fou, elle doit être en prison. Elle ne doit pas être soignée.
Présumé coupable, l'expression, elle vous choque?
Ah, complètement. Elle me choque totalement. Nous vivons dans un état de droit, ce qui nous permet de vivre en paix.
Plaidoirie, l'émission de police-justice de Radio Campus Paris, un samedi par mois à 17h30 sur le 93.9.
78 509, c'est le nombre de personnes incarcérées en France au 1er juillet dernier. Un record et à la clé, une surpopulation carcérale qui ne cesse d'empirer. Conséquence, des détenus qui sont obligés de dormir par terre, des infrastructures mal adaptées et des conditions de détention qui deviennent parfois inhumaines. Alors a-t-on un problème avec les prisons en France? Comment remédier à cette surpopulation carcérale? C'est la question qui sera posée dans ce premier épisode de plaidoirie. Bienvenue à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris.
Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Et pour discuter de ce sujet, deux invités avec moi en studio. Dominique Simoneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté depuis 2020. On pourra, je peux peut-être en profiter pour vous demander concrètement qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que nos auditeurs ne savent pas.
C'est souvent qu'ils ne savent pas.
Oui.
Je comprends.
Alors, est-ce que vous pouvez...
Oui, c'est une autorité administrative indépendante. Si je m'adresse à des étudiants, ils vont voir ce que c'est. C'est-à-dire que j'ai beau être nommée par le président de la République, ma nomination a été confirmée par le Parlement. J'ai passé devant le Parlement, séance de questions. Assez hard, d'ailleurs. Et ensuite, je suis totalement libre de dire ce que je veux. Je vais où je veux. Dans tous les lieux de privation de liberté, tels que les prisons, les centres de rétention pour étrangers, les centres éducatifs fermés pour les enfants et les hôpitaux psychiatriques en service fermé. Et nous sommes une équipe de 60 et on va un peu partout, tous les mois. Ensuite, on fait des constats et ensuite on rend ces constats publics.
Et donc avec nous aussi Mathieu Quinquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et également président de la section française de l'Observatoire des prisons. Merci à tous les deux d'être avec nous. Peut-être pour commencer ce débat donc sur la situation en France en matière de surpopulation carcérale, on peut d'abord peut-être essayer de poser un constat. Est-ce qu'on peut parler d'une situation finalement alarmante dans les prisons en France, Dominique Simoneau?
Alarmante, c'est même pire que ça, c'est absolument catastrophique. Et je trouve mais honteux, scandaleux que le gouvernement ne bouge pas depuis des années, qu'on l'alarme justement, qu'on lui dit de s'inquiéter de ça. Parce que la surpopulation, c'est une chose, moi je comprends, il y a des gens qui vous disent « ils sont en prison, ils en bavent, c'est normal, ils ont fauté ». Oui d'accord, une peine, bien sûr c'est fait pour punir, une peine c'est fait pour mettre quelqu'un à l'écart un temps, mais ces gens ils vont sortir tous, on ne parle pas des gros assassins et des gros violeurs. Je vous parle de tout ce qui nourrit les maisons d'arrêt où se purgent les petites peines et où vivent malheureusement les présumés innocents que sont les détenus provisoires. Et là, à trois par cellule, avec des vermines partout, des matelas par terre. Et l'autre jour, j'ai vu un monsieur de 81 ans, il dormait sur le matelas par terre en prison. Et c'était une prison où les détenus préféraient dormir tête bêche dans le minuscule lit qu'ils ont, plutôt que par terre à cause justement des punaises de lit et des cafards. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une peine? C'est une vengeance, alors c'est réussi. Mais si c'est de rendre les gens meilleurs, comme le rêvait Robert Badinter, c'est un ratage total. Et j'ajoute que nos voisins européens, on est quand même les champions les plus minables. On bat le record le plus minable, c'est-à-dire énormément de monde en prison, alors que en Allemagne, en Espagne, en Hollande et maintenant en Angleterre, ils vont vider les prisons. Et vider les prisons, ça veut dire une peine quand même, mais l'exécuter dehors. Et dehors, quoi qu'en disent certains, il faut faire passer l'idée que c'est aussi une peine.
Mathieu Quinquis, une situation alarmante selon vous aussi?
Oui, parce que la France n'a jamais compté autant de personnes détenues et elle n'a jamais été aussi régulièrement condamnée par les juridictions nationales et européennes en raison des conditions indignes de détention qu'elle impose à ces hommes, à ces femmes et aussi à ces enfants puisqu'il faut rappeler qu'en France, on incarcère des enfants à partir de 13 ans. C'est des conditions de vie que Dominique a décrites et qui sont parfaitement inhumaines. Et ce sont des politiques publiques qui refusent d'accepter les valeurs auxquelles on a souscrit et d'accepter d'offrir, et ce mot n'est pas un gros mot, offrir aux personnes détenues des conditions de vie dignes, respectueuses de l'état de droit qu'on est censé être, c'est-à-dire un pays qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, qui refuse que on s'assied sur la dignité d'hommes, de femmes et d'enfants à longueur de journée, qu'on leur impose de vivre à 3, 4, parfois plus dans des cellules exiguës, qu'on les soumette à des fouilles à nu aléatoires, régulières, humiliantes, que les conditions de visite de ces personnes par leur famille, par leurs proches, soient complètement dégradées parce que irrespectueuses du droit à l'intimité, que ces personnes ne puissent pas bénéficier des soins auxquels elles ont droit parce que dans les établissements pénitentiaires, eh bien, on compte un nombre de soignants par rapport à la capacité théorique de l'établissement, pas par rapport au nombre de personnes détenues. Et donc, lorsqu'il y a 150, 200, parfois plus pourcent d'occupation, eh bien, on compte autant de soignants en moins. Et lorsque, effectivement, on donne à la prison un certain nombre de missions, celui de sanctionner, bien sûr, de prévenir la récidive, de favoriser la réinsertion, eh bien on se rend compte que les conditions aujourd'hui, elles sont alarmantes, elles sont inquiétantes et que les politiques publiques ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux.
Et justement, Dominique Simoneau, vous avez commencé à parler des personnes en détention provisoire. On remarque que, notamment dans les maisons d'arrêt, les taux d'occupation sont particulièrement élevés. Comment on explique ça? Est-ce que c'est lié aussi à la difficulté de juger rapidement, c'est-à-dire dans le temps, avec des personnes qui sont parfois longuement en détention provisoire?
Oui, il y a 26% de détenus provisoires, c'est qui est énorme, beaucoup plus que ça ne cesse de grimper. Et oui, je rappelle qu'ils sont présumés innocents. Alors, il y a deux cas. Il y a les instructions criminelles ou les instructions correctionnelles sur de gros dossiers qui peuvent prendre très longtemps, des mois, voire des années. Ma dernière visite, je ne sais plus, c'était à Nanterre, j'ai vu des gars, ils étaient là depuis 3 ans, détention provisoire. Et puis, il y a tous ceux qui passent en comparution immédiate, c'est-à-dire la justice ultra rapide, que je dirais même expéditive, qui font appel et qui sont à nouveau présumés innocents et à nouveau considérés comme détenus provisoires.
Et la question des comparutions immédiates, est-ce que ça joue aussi un rôle dans cette... enjeu de la surpopulation, on sait que, je crois que les chiffres, c'est 7 à 8 personnes sur 10 qui, lorsqu'elles passent en comparution immédiate, sont condamnées à des peines de prison ferme.
Oui, bah faut imaginer effectivement qu'une comparution immédiate, en fait, c'est un jugement express. Vous êtes interpellé dans la rue, chez vous, peu importe, et puis 48, 72, parfois 96 heures plus tard, vous comparaissez devant un juge qui vous condamne jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 20 ans en réalité, même si vous êtes poursuivi en état de récidive. Des jugements qui durent une trentaine de minutes, dans lesquels, évidemment, on n'a pas le temps d'explorer toutes les facettes de votre itinéraire personnel, de votre personnalité, et où on considère bien souvent que les faits sont déjà établis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous juge tout de suite, parce qu'il n'y a pas de débat sur les faits qui vous sont reprochés. Des conditions d'accès aux droits, de défense qui sont évidemment dégradées, parce que... eh bien, on n'a pas le temps de réunir les pièces suffisantes, on n'a pas le temps d'apporter les fameuses garanties de représentation à la justice. Et de toute façon, le public qui est là est aussi un public particulièrement ciblé, c'est-à-dire que c'est la délinquance accessible aux policiers. Ce sont des personnes qui sont souvent dans une grande précarité administrative, financière, sanitaire aussi, et qui, c'est vrai, parfois, si on leur laissait quelques semaines supplémentaires, ne pourraient pas venir avec plus de garanties. Mais c'est la politique du chiffre de la police qui se retrouve dans cette justice expéditive, avec 7 fois plus de chances de se retrouver ou de risque de se retrouver en prison à l'issue d'une audience de comparution immédiate que dans une autre audience pénale, toute chose étant égale par ailleurs. Le risque, il est donc considérable, et ce sont des personnes particulièrement vulnérables, et ça, c'est une politique publique qu'on a vu battre à plein régime avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, et en réalité, on sait qu'il y a des effets cliqués sur ce genre de politique et que donc on ne reviendra peut-être jamais à ce qu'on a connu avant cette séquence répressive et que la justice a pris le rythme, un rythme encore plus vertigineux dans la répression de ces personnes vulnérables et fragiles.
Je voudrais dire quelque chose de, aussi, d'ajouter quelque chose de très inquiétant aux comparutions immédiates, que comme journaliste, j'ai suivi pendant tellement d'années. C'est ce qu'on appelle l'examen psychiatrique de garde à vue. C'est un examen qui est certes pratiqué par un psychiatre, enfin moi je peut-être, mais dans des telles conditions, et ils sont tellement de mauvaise qualité, ça, tous les magistrats vous le diront, qu'on voit arriver dans le box des prévenus des gens qui ont des attitudes complètement étranges, qui claquent des mains, qui rigolent, qui pleurent très fort, qui font des gestes inconsidérés, qui... Et au point que le magistrat a dit, écoutez monsieur, l'examen de garde à vue dit que vous êtes tout à fait apte à comparaître, donc ce qui veut dire apte à être puni de prison. Moi, j'hésite, je vous trouve pas très bien, monsieur, donc mandat de dépôt, je vous envoie en prison, mais en attendant, pendant ce temps, je demande une expertise véritable. Ça, c'est pour les juges qui se posent la question. Mais écoutez, on n'arrive pas au taux énorme d'une estimation de 30% de malades mentaux souffrant de graves troubles psychiques en prison sans qu'il y ait un énorme problème de toute la société. Or, et pour les psychiatres aussi d'ailleurs, il y a une école de psychiatrie qui appelle leurs confrères à dire « N'allez pas faire ces examens parce que c'est nul. » C'est dans des conditions qui ne sont pas... qui ne vous permettent pas d'évaluer quelqu'un. C'est vrai, 5 minutes, 10 minutes, bon. Voilà. Ces gens se retrouvent en prison. Je ne crois pas que les surveillants de prison soient des infirmiers psychiatriques, ni les co-détenus. Et imaginez ce que c'est d'être fou en prison. Or, il arrive sans arrêt des incidents, mais des incidents de plus en plus graves, soit de détenus qui morflent, qui se font taper, soit des rixes entre détenus, soit des détenus qui frappent les surveillants, soit des surveillants qui frappent les détenus. La violence, c'est une composante intrinsèque de la surpopulation.
Alors, en parlant de surpopulation tout à l'heure, vous avez également évoqué la condamnation, ou plutôt les condamnations de l'État français donc par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020, en 2023 également, pour des conditions indignes de détention, donc décision rendue, on l'a dit, par le CEDH, qui pointait, je cite, l'existence d'un problème structurel. Alors, quelle a été la réaction de l'État français à ces décisions et quelle est plus généralement la politique de l'État en matière de surpopulation? Écoutez, je vous propose d'écouter un audio. Il s'agit donc d'Éric Dupond de Moretti qui passait devant la commission des lois en 2023. Il évoquait les pistes pour remédier à cette surpopulation carcérale.
Où on construit plus de places de prison, et puis alors il n'y a plus de question de surpopulation carcérale, où on prend la responsabilité, faites-moi cette proposition de libérer 12 000 détenus dans ce pays. Parce que je rappelle que quand Nicole Belloubet, et elle a eu raison de le faire, a libéré des détenus parce qu'il était dangereux dans la promiscuité carcérale, on était en pleine pandémie. Vous avez vu les polémiques ? On en parle encore aujourd'hui. Il y a aussi ces équilibres, si vous voulez. Maintenant, résumer cette question de la surpopulation carcérale à la construction d'établissements pénitentiaires, ça n'est pas vrai.
Éric Dupond-Moretti évoque la question des constructions des places, de places en prison, finalement. On sait que c'est 15 000 places en plus d'ici à 2027. Est-ce que c'est la solution de construire plus de places ?
Bon alors, Mathieu et moi, je pense qu'on est d'accord, ça n'est pas la solution. Plus on va les reconstruire, plus on va les remplir, et moins on va se tourner vers des solutions alternatives d'exécution de peine plus intelligentes, c'est-à-dire à l'extérieur. On y reviendra peut-être. Mais surtout... c'est la blague. Ces 15 000 places ont été promises en 2017. On en est à 4 003 sorties de terre. Donc, en 10 ans, là.
Et ça répond absolument pas au problème structurel qui a été souligné par la Cour européenne des droits de l'homme. On peut avoir effectivement ce raisonnement qu'a Éric Dupond-Moretti simplement voir des chiffres et de se dire, bah, puisqu'il y a à l'époque où il parle 12 000, mais aujourd'hui bien plus, de personnes en surnombre dans les établissements pénitentiaires, eh bien, il faut construire autant de places. Sauf que c'est faire fi des dynamiques de politique pénale. Et ces personnes détenues, elles ne sont pas arrivées seules Elles sont arrivées parce qu'à un moment, des juges ont ordonné ces incarcérations dans les conditions qu'on a décrites tout à l'heure, mais pas seulement en comparution immédiate, aussi pour exécuter des peines, alors que le code pénal offre un panel de dispositifs alternatifs à la détention, qui ne sont pas aujourd'hui exploités comme des moyens de substitution à la détention, mais comme des moyens de sanctionner plus sévèrement des gens qui, de toute façon, ne seraient jamais allés en détention.
Et justement, une des pistes envisagées, c'est la question de l'aménagement des peines. Alors, je reprends une interview que vous avez donnée au site Actu Juridique, où vous, je vous cite, hein, « Les magistrats essaient d'éviter les dispositifs qui s'imposent à eux, tels que les aménagements de peine ab initio, en dessous de 6 mois et en dessous d'un an, des pratiques juridictionnelles se mettent en place pour les contourner. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Bah, d'abord, je maintiens complètement ce que j'ai déjà pu dire. Et alors, pour l'expliquer, bah, c'est-à-dire que les dernières lois de réforme en matière de peine ont effectivement fixé des seuils en dessous desquels les magistrats ont en principe l'obligation d'aménager la peine ab initio, c'est-à-dire je prononce une peine d'emprisonnement ferme, mais compte tenu de votre personnalité, compte tenu des circonstances de l'espèce, etc., je considère que cette peine pourra être aménagée sous une autre forme à l'extérieur ou en semi-liberté. Et ça, c'est ce que dit la loi. Sauf que bah, les magistrats, ils ont leur pratique et il suffit pas dans la loi de baisser les seuils pour que les pratiques changent. Et si on essaie de calquer la loi par rapport aux pratiques, et bah, les pratiques vont changer. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, depuis cette dernière réforme des peines, des magistrats ont surélevé le niveau de répression. Et donc, là où ils condamnaient pour certaines infractions des gens à 6 mois d'emprisonnement, eh bien pour contourner ce seuil de 6 mois, les condamnent à 7. Là où ils condamnaient à 1 an d'emprisonnement, eh bien maintenant, ils condamnent à 1 an ou plus. Et donc, de cette manière-là, ils contournent l'obligation légale. Mais ça a une conséquence immédiate qu'on a décrite tout à l'heure, qui est que ça conduit sans cesse plus de gens en prison. Et donc, ça aggrave les conditions dans lesquelles de plus en plus de personnes détenues vivent, et donc dans lesquelles elles finissent par sortir dans des conditions évidemment très dégradées.
Et est-ce que ça voudrait dire finalement que ces mesures sont contre-productives, puisqu'elles produisent l'inverse de ce qu'elles souhaitaient faire ?
Oui, il y a même une loi qui était en préparation avant la dissolution pour corriger ce qu'ils appellent les effets de bord de leur propre loi. Vous voyez, un peu. C'est presque comique, c'était pas si triste. Et puis, je trouve que ces alternatives... Pourquoi l'Allemagne, quand elle arrive à 90% de détenus dans sa prison, la prison se déclare suroccupée, plus personne n'entre. Eux, ils sont 1 par cellule en Allemagne. Leur taux de récidive est bien moindre. Et ils croient aux peines à l'extérieur. Alors tout l'argent qui est investi dans de futures constructions, qui est mis de côté pour construire des prisons et des cellules, qui nous coûtent quand même 110 à 120 euros jour par détenu, pourquoi on ne l'emploie pas à recruter du personnel qui encadre les sorties des détenus pour qu'ils sortent dans de bonnes conditions ?
D'ailleurs, on entend beaucoup parler, en tout cas il y a une musique qui monte sur la justice qui serait laxiste. Est-ce que ces éléments de la surpopulation, et notamment ce dont vous avez parlé avec les magistrats, est-ce que finalement ça veut dire qu'il y a plus de gens en prison parce que les magistrats sont plus durs ?
Oui, parce que l'augmentation de la population carcérale sur ces dernières décennies est sans corrélation avec les niveaux de délinquance. Sur un certain nombre de faits, on constate effectivement une augmentation, sur d'autres, on constate une baisse. Au final, quand on essaie de faire la synthèse de tout ça, on voit que le nombre de personnes détenues augmente bien plus vite que les niveaux de délinquance et augmente bien plus vite que la population française. Et donc, on a véritablement ici une politique publique, une politique pénale qui est loin d'être laxiste. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à se rendre dans les juridictions. À Paris, on a, entre guillemets, la chance d'avoir des comparutions immédiates 6 jours sur 7. Donc, n'importe qui peut se rendre devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris, les 23e chambres, parce qu'elles siègent jusqu'à 3 ou 4 fois en simultané, et constater par le fait ce qu'on risque lorsque on est interpellé sur la voie publique et le risque réel qu'il y a 2-3 jours après à se retrouver à Fleury-Mérogis ou à Fresnes.
Une autre des pistes envisagées, celle-ci par exemple dans une tribune publiée par la magistrate Valérie Odile Dervieux sur la question de la jauge carcérale. Peut-être je peux vous demander d'expliquer si vous savez ce que c'est la jauge carcérale et est-ce que ça pourrait être une solution pour mettre fin à cette question de la surpopulation dans les prisons.
Non, je ne me souviens plus ce qu'a voulu dire Valérie Dervieux avec sa jauge carcérale, mais je vais l'appeler parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais
sur la jauge carcérale, ça serait l'idée qu'un détenu qui rentre, c'est un détenu qui sort. Est-ce que c'est une solution?
Ah bah oui, oui, ça peut être une des solutions. De toute façon, mais alors à ce moment-là, il faut que la prison soit à zéro, enfin qu'on ait remis les compteurs à zéro, enfin à 100%. La jauge ne peut pas être au-dessus de 100%.
Et est-ce que finalement aujourd'hui, c'est aussi une question de volonté politique en la matière? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique sur la question de la surpopulation carcérale et plus largement sur les enjeux de détention et des conditions de détention?
Oui, moi j'ai beaucoup d'amertume parce que ça fait 4 ans que je m'entends dire par le gouvernement si on vide les prisons comme pendant le Covid ou si on fait ça, ça fera monter le Front National. Chaque fois, j'ai répondu, le Front National monte très bien sans ça. Résultat, voilà. Je ne pense pas qu'on n'a pas vidé les prisons et on a toujours le Front National plus haut. Donc, tout ça est bidon. C'est effectivement, je trouve, le gouvernement, il est responsable de tout ce qu'il n'a pas fait en la matière et d'une catastrophe annoncée pour nous, mais pour toute la société. Parce que ces gars-là, ils vont sortir. Je dis les gars, parce que nous, on est très peu les filles. Ils vont sortir dans un état très pénible, croyez-moi. Ils vont recommencer. On va dire, bah voilà, ça n'a servi à rien. Alors, monsieur, on va taper plus fort. Vous allez prendre le double. Et c'est sans fin. L'Allemagne est beaucoup plus intelligente que nous. Et ça me fait mal au cœur de le dire.
Est-ce que, Mathieu Quinquis, la question, c'est aussi la question de la réinsertion avec la surpopulation. Est-ce que, finalement, il n'y a pas une forme de reproduction puisque la surpopulation carcérale détériore les conditions de détention? Et est-ce que ça a des conséquences derrière lors de la sortie des personnes qui étaient détenues?
Bah évidemment, ça affecte en fait tout le parcours, ce qu'on appelle le parcours d'exécution de peine, l'accès à des activités, à des formations, à des soins, comme je l'évoquais tout à l'heure. Tout ça est ralenti parce que les listes d'attente s'allongent, lorsque vous accédez à un service, enfin, après plusieurs mois dans un établissement, eh bien là vient une vague de désengorgement, selon le mot retenu par l'administration pénitentiaire, qui fait que des dizaines de personnes détenues vont être envoyées dans d'autres établissements plus ou moins éloigné pour libérer de la place là et accueillir le flux quotidien qui dégueule des juridictions et des tribunaux correctionnels. Donc ça affecte évidemment tout le parcours d'exécution de peine. Et ça vide de sens, si tant est que la prison puisse avoir du sens. Il faut aussi, je pense, réfléchir à ça et pas seulement, fondamentalement, se poser la question de à quoi sert la prison et pas seulement critiquer l'état de fait aujourd'hui. Et c'est à ça, pour répondre aussi à votre question sur la responsabilité du gouvernement, le gouvernement est responsable de refuser de faire passer ce message et de poser cette question et d'exciter en permanence les peurs. On a un ministre de la Justice qui, après la période des mouvements sociaux et des émeutes dans les banlieues, lieu l'année dernière, se pavaner sur les plateaux télé en disant que la justice n'était pas laxiste. La preuve, près de 600 personnes avaient été incarcérées en moins de 2 mois à la suite de ces émeutes. Bah, laisser entendre à la population que le seul message valable quand la justice doit parler, c'est l'incarcération, c'est un échec. C'est un échec et de la part de quelqu'un qui s'est battu toute sa vie et brillamment par ailleurs, pour que la prison disparaisse de l'esprit des magistrats, ou en tout cas ne soit pas le seul élément qui les préoccupe, c'est un triste renoncement. Est-ce qu'il plaidait pour ses clients ce qu'il ne pensait pas, ou est-ce qu'il retourne sa veste lorsqu'il est au gouvernement? Je ne sais pas, mais le bilan des 4 années d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice sont numériquement et qualitativement désastreux.
Ça sera ma dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Sur les perspectives, on a vu un léger recul selon les derniers chiffres de la surpopulation carcérale. Quelles sont les perspectives à moyen terme?
Il ne veut rien dire ce recul parce que l'été, il y a toujours des reculs parce qu'il y a moins d'audience. Donc c'est toujours comme ça, c'est les chiffres de l'été. Et la perspective, nous on a un groupe de travail qui se réunit au CGLPL, enfin au contrôle général, machin, des lieux de privation de liberté, qui comprend les syndicats pénitentiaires, les syndicats d'avocats, de magistrats, et de directeurs de prison, de médecins. Et j'espère qu'on fera avancer les choses, parce qu'on va tous dans le même sens, et je pense qu'il faut écouter les professionnels, pas les battleurs et les bonimenteurs qui vous... Moi, j'en veux aux élus de la République. Ils vont voir dans les prisons. Ils savent l'état de nos prisons et ils continuent à tenir ce discours. C'est fâcheux, c'est pas très républicain.
Mathieu Quinquis, en 30 secondes, les perspectives à moyen terme.
Les perspectives, bah, on continue de se battre parce qu'il faut effectivement continuer de sensibiliser et puis de faire ce plaidoyer. On voit que l'espace politique se réduit, qu'on refuse finalement le combat des idées nobles, des idées fortes. Donc nous, on va se battre pour ça. Malheureusement, ce qui nous attend sans doute dans les prochaines semaines en termes de politique pénale et de politique tout court, hein, par ailleurs, est assez préoccupant. Mais on continue. Cette année, l'OIP a déposé avec de nombreuses associations une multitude de recours. On en fera encore. La France sera de nouveau condamnée. Et à un moment, dos au mur, elle devra plier et elle devra reconnaître la réalité et tout mettre en œuvre pour la changer. Ça, je n'en doute pas. Et on n'arrêtera pas tant que ça n'arrivera pas.
Eh bien, je pense que c'est le mot de la fin. Merci à vous,
merci
Mathieu
à vous.
Quinquis et Dominique Simoneau, d'avoir répondu présent pour cette émission. C'était le premier épisode de Plaidoirie, donc la nouvelle émission de Police Justice de Radio Campus Paris. Prochain épisode dans un mois tout pile. Et en attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité sur le site internet de Radio Campus Paris. Et quant à moi, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de RCP.